Albert Cosri aurait eu 100 ans en 2013, mais cependant il est mort en 2008. Nous sommes ici pour lui rendre un hommage en quelque sorte, puisque c'est un écrivain égyptien qui hélas n'a pas été assez lu dans son pays. Donc Albert Cosri est né en novembre 1913, excusez-moi. Il a fait ses études au Caire dans une école francophone, mais pas française. Il s'est lancé dans la littérature très jeune en écrivant des poèmes.
Les morsures.
Les morsures, un poème qu'il a écrit quand il était jeune, adolescent. Puis après, il a écrit des romans comme La maison de la mort certaine. C'est un très beau texte, je vous conseille de le lire. Donc nous avons Monsieur Gazio avec nous. On va lui poser quelques questions parce qu'il connaissait personnellement Albert Cosri.
Oui, c'est vrai, oui. Albert Cosri a d'abord été un sujet de thèse que j'ai décidé. J'habitais au Maroc à l'époque de faire un doctorat sur un écrivain francophone. J'ai eu l'idée, parce que j'aimais beaucoup Cosri, que j'avais découvert quelques années auparavant, de faire un travail sur lui, sur son œuvre qui était à l'époque très peu lue. Je lui ai écrit, il m'a répondu pour la première et dernière fois, parce que sa paresse en général l'empêchait de répondre à ce qu'il lui écrivait. Et après cette année marocaine, j'ai passé une année à Paris, de congé, on peut le dire, où j'ai pu le rencontrer presque tous les jours au café, puisqu'il vivait un peu à l'égyptienne, tout en étant à Paris déjà depuis presque, à l'époque, 40 ans. Donc il recevait, non pas dans un café Baladi, loin de là, parce qu'il recevait au café de Flore, qui était celui le plus proche de son hôtel. Un hôtel où il a habité à partir de 1950 jusqu'à sa mort. Il est mort dans sa chambre d'hôtel, à 90 ans passés. Pourquoi, vas-tu me demander,
oui,
vivre dans une chambre d'hôtel?
Oui, pourquoi il a vécu dans une chambre d'hôtel alors?
Eh bien parce que c'était pour lui le moyen le plus sûr de garantir sa liberté, et sa liberté en particulier de tout ce qui est matériel, souci matériel. À l'hôtel, tu ne t'occupes de rien, on fait le ménage à ta place, on change les ampoules à ta place.
En quelque sorte, il était un peu feignant, c'est ça?
Il était paresseux, mais non pas du tout parce que par mollesse, comme certains de ses personnages, surtout dans les premières œuvres, mais parce qu'il pense que la loisiveté, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, permet d'apprendre, permet de se connaître, permet de connaître les autres. C'est le meilleur moyen d'avoir une vie intelligente. Pour lui, l'oisiveté et l'intelligence sont deux choses, on va dire, consubstantielles. Quand tu travailles, de certaine façon, tu te crétinises. Et surtout, tu joues un rôle, tu joues le rôle que le travail t'assigne. Puisque quand tu es, par exemple, directeur d'une usine de biscuits, tu vas forcément avoir le rôle d'un directeur d'usine. Tu vas oublier qui tu es. Alors que si tu es absolument oisif, tu es évidemment toi-même, parce que tu ne joues aucun rôle. Si tu es toi-même, non seulement tu te connais, mais tu peux t'ouvrir complètement aux autres et avoir de vraies relations de fraternité.
Et oui. Parlez-nous un peu de lui en tant qu'homme. Il avait une famille ou...
Non, il avait une famille. Il avait deux frères, une sœur, etc., qu'il a quitté très tôt, puisque son rêve, très jeune, il avait deux rêves. C'était d'être écrivain et de vivre à Paris. Donc dès qu'il a pu, c'est-à-dire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est parti, il s'est installé à Paris et il n'est jamais revenu au Caire, sauf pour quelques très brefs séjours. Il m'a raconté que dès qu'il avait entendu, il était sur le bord de la piscine de l'hôtel Menaus, il entend à la radio la capitulation de l'Allemagne, il abandonne tout, il se précipite en ville et il prend un billet pour le premier bateau, qui était un bateau qui... ramenait des soldats français qui étaient au Liban. Et donc, il est arrivé à Paris en 1945. C'était son projet. Et il a eu la chance, en fait, de vivre peut-être la dernière période où Paris était une ville de rêve. C'est-à-dire une ville où, à la fois, on s'amusait beaucoup.
Ouais, pour les arts, c'était une très belle ville.
Oui, c'était en plus l'époque de Saint-Germain-des-Prés. Donc, une vie artistique bouillonnante, des gens extrêmement originaux qui, comme Boris Vian, étaient à la fois capables d'écrire des poèmes, des pièces de théâtre, de jouer de la trompette, de composer des chansons. Il y avait toute une faune dans ces caves de Saint-Germain-des-Prés, ce qui explique qu'il a habité dans cet hôtel rue de Seine, qui était tout proche de cet endroit nocturne où, me disait-il, en plus venaient des gens du peuple, des filles, des secrétaires, qui venaient s'amuser aussi le soir, pas simplement les intellectuels. Et c'est là aussi qu'il a rencontré, entre autres, Albert Camus, dont il est devenu un ami, on va dire plutôt...
intime.
Un ami intime, non pas du tout pour des relations, on va dire, intellectuelles, me disait-il, mais plutôt, ils avaient un goût en commun qui était celui des jeunes filles. Et Camus, qui était déjà très célèbre à l'époque, demandait à Cossery d'aller rencontrer, de faire les premiers pas vers les jeunes filles, d'arranger comme ça des rencontres. Ce qui les amusait, c'est qu'ils étaient nés la même année, en 1913, qu'ils avaient les mêmes initiales, A, C, et qu'ils avaient, en disant, un peu la même philosophie de l'existence, une vie libre et pauvre.
Camus lui aussi, oui, est parti vivre en France très jeune.
Pas très jeune, en fait, il a lui aussi attendu...
Assez jeune quand même, il me semble, non ?
Oui, 1940, comme ça, il avait une vingtaine d'années, trentaine d'années. Mais ils avaient la même conception, disons, d'une vie libre, gratuite, qui faisait que la misère n'était jamais pesante sous ces latitudes, que ce soit à Alger ou au Caire, c'est du moins ce qu'il disait. Et Camus, lui, a connu de la misère, contrairement à Cossery. Et il disait, moi je n'ai jamais souffert de la pauvreté, j'avais le soleil, j'avais la mer, j'avais la lumière. À aucun moment je n'ai eu le sentiment de manquer quelque chose. C'est exactement ce que vivent les personnages.
Ils n'avaient pas besoin de besoins matériels. Hein.
Non, les besoins matériels étaient comblés par la beauté du monde. Voilà. La beauté du monde, la fraternité avec les gens de son espèce. Et c'est exactement des thèmes que Cossery va développer de façon, non pas plus abstraite, mais qu'il a connu à travers d'autres personnes que lui-même. Parce que lui... comme tu l'as dit, je crois, était originaire d'une famille à l'origine syrienne, qui, ouais, vivait de petites rentes, comme ça le père ne travaillait pas, il n'en avait pas besoin, il faisait le journal, c'était sa seule occupation, et lui, Cossery, lui n'a jamais connu vraiment la pauvreté, ouais, mais il a vécu dans cette chambre d'hôtel minuscule, avec simplement, j'ai vu sa chambre quelques années avant sa mort, il y avait une armoire, une chaise, une petite table, une minuscule salle de bain, une télévision, une cafetière, absolument tout ce qu'il avait.
Ça lui suffisait pour trouver, oui, son inspiration.
Pour tout le reste, en fait, non seulement c'est inutile, mais cela te rend esclave. Plus tu as d'objets, plus tu es attaché aux objets, plus tu as peur de les perdre, et donc tu perds de ta liberté. Donc tout ça faisait partie de sa conception de l'existence.
D'accord.
Cette rencontre avec Camus était... sans doute quelque chose de très fort, parce que je me souviens que quand il racontait le soir où il était dans un taxi à Paris et il entend à la radio l'annonce de la mort de Camus, qui était une mort très tragique, d'accident de voiture, et dans le regard de Cossery, il y avait encore une émotion très forte. On sentait que ça avait été pour lui un très grand chagrin. C'était quelqu'un de très pudique, qui ne se plaignait jamais. Mais on voyait dans son regard que la perte d'Albert Camus avait été quelque chose de très dur pour lui. Donc ce lien entre que peu de personnes... ne connaissent, c'est une histoire typique, on va dire, de Saint-Germain-des-Prés, de cette facilité que les gens avaient de se rencontrer les uns avec les autres. On pourrait, et je terminerai là-dessus, quand on regarde de plus près certaines œuvres de Cossery, en particulier Mendiants orgueilleux, on peut retrouver un peu d'influence littéraire de Camus, puisque dans L'étranger, donc tout est fondé sur ce crime innocent, quelque, ouais, sorte, ce crime qui n'a jamais été voulu par celui qui l'a commis. Et c'est la même chose dans le personnage de Corrard, dans Mendiants orgueilleux, qui tue quelqu'un sans l'avoir voulu. Et les deux personnages ont quelque chose de commun.
Eh bien,
donc il y a une influence littéraire, mais qui est quand même relativement, on va dire, légère.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Le plaisir était évidemment pour
et
moi.
J'espère que ça vous aura éclairé un peu plus sur le personnage d'Albert Cossery.
Je l'espère aussi, et surtout encourager à le lire. Et d'ailleurs, l'extrait que tu vas nous faire le plaisir de faire découvrir aux auditeurs devrait, je le souhaite, les inciter à lire Cossery. Hein, c'est donc un extrait, si je vois bien, de
La Maison de la Mort Certaine,
publié alors que Cossery habitait encore au Caire, même si c'était publié non pas au Caire, mais à Alger. Non.
Bon. Donc à présent, Omar va vous lire un extrait de La Maison de la Mort Certaine de Albert Cossery.
C'est très intéressant, mesdames et messieurs. Écoutez.
C'était l'hiver. Le terrible hiver de l'Égypte misérable. La journée avait commencé dans l'horreur d'un froid glacial. D'abord, Le vent avait harcelé la ville moderne et ses bâtisses en béton armé, pareil à d'invincibles forteresses. Puis, il avait déferlé comme un sauvage sur les quartiers populaires. Là, aucun obstacle sérieux ne s'opposait à l'énormité de son élan. Il avait pris d'assaut l'infini des massures et rempli les venelles de son souffle dévastateur. C'était un vent glacial, chargé d'une humidité nocive. Il passait à travers les cloisons branlantes des taudis. Il pétrissait des ruines. Il s'enroulait autour d'infâmes décombres, soulevant partout l'odeur pestilentielle de la misère. Tapis au sommet de la venelle des sept filles, la maison de Sir Khalil, le propriétaire dégoûtant, craquait sous la rafale et achevait de se convertir en ruine. Il faut dire l'atroce vérité, cette maison ne tenait debout que par miracle. Seuls, les fils de putain, aveuglés par une misère abjecte, pouvaient abriter leur chétive existence entre ces murs délabrés. Une vulgaire baladeuse de marchands de laitue, passant dans la venelle, la faisait chanceler sur sa base. Aussi, pour prévenir tout danger, avait-on interdit l'accès de la venelle à tout genre de véhicule, et même à certains vendeurs ambulants, dont la voix trop puissante risquait, par des déplacements d'air néfastes, de précipiter la catastrophe. Mais hélas, toutes ces précautions n'empêchaient pas la tragique menace de grandir et de s'étaler, car la maison était si désemparée dans ses moindres recoins qu'en dehors des éléments extérieurs qui fomentaient sa perte, elle recelait en elle-même le germe de son effondrement. Rien ne pouvait plus l'arrêter dans sa méthodique et vertigineuse déchéance. Quant à ses locataires, c'était déjà endurci à tout, depuis longtemps habitué à toutes les terreurs hallucinantes de la vie des pauvres. Leur étrange misère ne leur laissait pas le temps de comprendre et de crier. D'ailleurs, à quoi bon crier? Là où ils étaient, personne ne pouvait les entendre. Alors, ils se disaient avec sagesse qu'un malheur qu'on connaît vaut sans doute mieux qu'un malheur sournois et qui se cache. Merci, mesdames et messieurs.
Paolo va faire une présentation d'une partie musicale de cette nouvelle émission.
En effet, notre documentaliste, Michel Ezat, si je ne me trompe pas, va chanter une chanson de Moustaki qui rend hommage à Albert Kosri.
Georges Moustaki, grec, monsieur grec.
Georges Moustaki.
Oui, en fait, c'est une chanson de Georges Moustaki qui est né à Alexandrie il y a cette année 80 ans et il est décédé l'année dernière. Et cette année, donc, on commémore un peu donc, son départ de ce monde. Et à cette occasion, prochainement, il y aura aussi un concert hommage à ce grand chanteur. Donc d'origine gréco-égyptienne, et je chante cette chanson aussi en lien avec le roman d'Albert Kosseri, Mendiant et orgueilleux.
Babylone, au jardin. espérer paraître en habit d'imposture et de supercherie. On peut être mendiant et orgueilleux de l'être, porter ses guenilles sans en être appauvri.
De Monsieur Martin, notre documentaliste du lycée.
Monsieur Martin,
Monsieur Vladimir Pavlon.
C'est aussi un hommage à notre ancien documentaliste, Monsieur Martin, s'il nous entend de sa Bretagne en France. Donc, on lui passe tous le bonjour du nouveau lycée français du Caire aussi à El Merak.
Qui nous donne l'envie de vivre.
notre cher documentaliste bien-aimé vient de nous interpréter une chanson de Georges Moustaki, mais je pense que notre documentaliste en sait plus que moi en ces termes. Donc, à vous la parole, monsieur.
Donc, vous voulez que je vous documente sur la chanson que je viens d'interpréter?
Oui, en fait, on veut savoir qui était Georges Moustaki, et c'est le nom de la chanson que vous venez d'interpréter, et plein d'autres détails, si vous pouvez.
Ok, donc, cette chanson donc, s'appelle « Sans la nommer », ou aussi on peut dire « La révolution permanente ». C'est le titre de la chanson que Moustaki avait composée à l'occasion donc des manifestations de mai 68 en France.
Oui, mais sans vouloir vous couper, je voulais juste savoir si vous saviez pourquoi il y avait deux titres à cette chanson.
Oui, parce qu'en fait, c'est la révolution permanente. Comme le dit le texte, c'est toujours, chaque jour, c'est la révolution qui continue.
Oui.
On peut aussi prendre le modèle égyptien, parce que Georges Moustaki était d'origine égyptienne.
Mais vivait en France.
Et grec, n'oubliez pas, et grec.
C'était un citoyen du monde parce qu'il a beaucoup voyagé aussi. Il est allé même jusqu'au Japon, aux États-Unis. Il y a même des chansons de lui qui ont été traduites en japonais.
C'est parce qu'il aimait voyager ou c'est parce qu'il avait du travail dans ces pays-là?
Non, c'est toujours grâce à la chanson qu'il voyageait beaucoup de pays. Beaucoup d'artistes aimaient collaborer avec lui parce qu'il n'était pas uniquement chanteur, il était aussi compositeur et interprète. Il a fait des chansons pour des films, il était même acteur. Il a joué dans des films comme Mendiant et Orgueilleux. Il avait des talents de dessinateur, de peintre, et il profitait toujours de ses voyages. Quand il allait par exemple dans des restaurants, il dessinait sur les nappes, sur les mouchoirs papier. Dès qu'il trouvait des supports, il les utilisait directement.
Donc c'est un vrai artiste, quoi.
Pour s'exprimer artistiquement.
D'accord. Et vous pouvez continuer.
Donc cette chanson, comme je viens de vous dire, c'est la révolution permanente, sans la nommer, parce que ça commence par cette phrase: je voudrais sans la nommer vous parler d'elle.
D'accord.
Donc là nous avons su que Georges Moustaki était un artiste qui voulait faire partie des mouvements politiques qu'il avait à son époque, c'est ça?
Et en fait, à cette époque, il était en France en mai 68, et donc il partait dans les usines, par exemple, chanter avec les ouvriers, la classe moyenne, la classe sociale. Et donc, il était plus âgé que les étudiants qui avaient, je crois, 18-20 ans, et lui, il avait presque la trentaine. Il est né en 1934, exactement le 3 mai 1934. Et s'il était vivant aujourd'hui, il allait avoir 80 ans le 3 mai 2014.
Wow. Il avait de l'influence ou...
Moi, je pense qu'il avait de l'influence au niveau de l'expression artistique, surtout à travers ses chansons, parce qu'il a écrit sur Franco, sur le Brésil, sur l'Espagne, sur le Mexique, sur les dictatures. En fait, il s'exprimait toujours à travers la chanson.
Ok. Et nous avons aussi entendu parler que vous allez faire un spectacle bientôt. Quand, comment, où est la réunion?
Préciser un peu cela, donc, quand j'ai appris le décès de Georges Moustaki l'année dernière, le 23 mai 2013, j'étais très touché parce que personnellement, je l'ai rencontré en 2006 en Bulgarie. Nous chantions tous les deux dans le même festival de chansons francophones, Clé d'Or, en Bulgarie. Et donc j'ai eu l'occasion de prendre le petit déjeuner avec lui. Donc on a évoqué plein de choses sur l'Égypte. Il évoquait plein de souvenirs aussi sur le pays, sur Alexandrie surtout. Donc où il a passé son enfance et sa jeunesse.
Il était bon le petit déjeuner?
Oui.
Et donc, c'est quand?
Donc,
22 mai.
J'ai proposé donc à l'Institut français d'Égypte, en collaboration avec le groupe musical Les Égibadour. Donc, comme vous le savez, Égibadour, c'est un groupe franco-égyptien qui présente donc des chansons adaptées un peu au style oriental. Et donc, ça fait presque 3 ans qu'ils chantent, qu'ils jouent plutôt, et parfois aussi ils introduisent certaines chansons du patrimoine égyptien ou du folklore égyptien dans le cadre de leur répertoire. Et comme vous le savez, il y a certains professeurs,
Monsieur Robert,
comme Monsieur Alain Robert, Monsieur Bertrand Mailloux,
qui font partie de ce groupe et qui jouent aussi et qui m'accompagnent pendant ce spectacle, donc, qui est consacré à Georges Moustaki pour lui rendre hommage. Et ça va avoir lieu à l'Institut français d'Égypte, au Centre culturel français du Caire. Et ça va avoir lieu le 22 mai, c'est précisément un jeudi soir, à 19h, à l'Institut français d'Égypte. Donc vous êtes tous les bienvenus, vous êtes invités cordialement pour venir célébrer cet hommage à Georges Moustaki.
Merci beaucoup. Un petit détail sur les Égyptadours. C'est les troubadours égyptiens. C'est les troubadours, oui, ceux qui chantaient au Moyen Âge.
Donc en Égypte. C'est la renaissance des troubadours en Égypte.
Donc nous vous conseillons d'aller regarder ce spectacle.
Le 22 mai, Institut français, n'oubliez pas, jeudi soir.
À 19h.
Vous êtes tous les bienvenus.
Et c'est gratuit.
En plus, il y a de la nourriture aussi gratuite.
Une surprise, on verra.
Qui verra. Ah, s'il n'y a pas de nourriture, écoutez donc, de la chanson.
En plus, sur le site de l'Institut français d'Égypte, vous tapez dans Google Institut français d'Égypte ou Institut français Le Caire.
Donc, www.institutfrancais-égypte.com.
Donc, on remercie encore une fois Monsieur Michel, notre documentaliste.
Tout à fait, Michel Ezzat, et vous êtes bien sur Radio LF Caire.
AP Radio, n'oubliez pas.
.org. Mais merci
beaucoup.
Et on vous revoit à la prochaine.
Au revoir.